non-lieu de mémoire.
C'est pas simple d'essayer une chaîne. C'est triste, c'est triste.
Là, je mettrais plus les pieds dans le tête-ton, là.
Pas de raison aujourd'hui.
J'ai du mal à toucher Dominique Lescoin. Ça me fait mal au nez. Ça aussi, c'est la chaîne de nous.
Parce que ces trois personnes qui m'ont convoqué à 4h15, comme je vous ai dit le matin, mon frère m'a dit que c'était fini et puis que j'avais plus besoin de moi.
Mon lieu de mémoire.
Je rentre à la maison, j'ai réveillé mon mari qui était là. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Et puis je suis redescendue, puis j'ai fait le ménage. J'ai fait les enfants. Et puis tout d'un coup, je me suis arrêtée, puis je me suis mise à pleurer. Voilà.
Ainsi, malgré nos efforts, nous n'avons pu trouver aucune lumière travaillant actuellement dans l'horlogerie genevoise qui accepte de témoigner.
Et puis bon, ben, de temps en temps, ben, si je veux me payer quelque chose, un petit supplément, ben, je bosse le soir. Je rebosse après le boulot de l'usine.
Je suis trop fatiguée le soir. J'ai une immense fatigue intérieure. J'ai même pas le courage. Le matin, des fois, je me lève, je me dis, oh ben mince, il faut retourner au boulot. Je suis déjà fatiguée avant de sortir du lit. J'arrive pas à me reposer complètement.
Je suis au montage de collants. Je suis assise dans la machine. Puis à ma gauche, chez les collants, c'est déjà fait. C'est la jambe. C'est une jambe et l'autre jambe. Fait.
Moi maintenant, je ne peux plus y aller. J'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté. C'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet.
Non-lieu de mémoire.
Nous sommes le 13 décembre 1913, à Zurich, dans la salle de réunion de l'Eintracht. L'Eintracht est une section du Parti Socialiste Zurichois. Politiquement, elle se situe à l'extrême gauche. Elle rassemble beaucoup d'intellectuels exilés, notamment allemands, qui restent à Zurich le temps d'échapper à une condamnation ou à des menaces. En cet hiver 1913, on peut y croiser le jeune Willy Mützenberg, Karl Radek et peut-être Léon Trotsky. L'Eintracht est réunie pour statuer sur une demande d'exclusion du Parti Socialiste. Le comité national du parti réclame en effet l'exclusion du médecin zurichois Fritz Brubacher, membre de l'Eintracht. Brubacher et son ami Max Tobler font, depuis 1905 environ, d'immenses efforts de propagande syndicaliste révolutionnaire et antimilitariste au sein du Parti Socialiste. Ce qui déplaît beaucoup aux instances officielles du parti.
Merci, Mr. Sinal.
Je vous en prie.
Chez les socialistes zurichois.
Le journal de Genève, décembre 1913.
Le Parti Socialiste Zurichois, sans cesse agité par des courants contraires, a eu dernièrement à s'occuper de la propagande anarchiste que faisait parmi la jeunesse un certain Fritz Brubacher, qui prenait fort au sérieux son surnom de Socrate de l'Athènes de la Limate. Cette affaire a donné lieu au sein du parti à des discussions passionnées. Mis sur la sellette par quelques camarades de nuances modérées, Brubacher se défendit en faisant une diversion. Il accusa divers socialistes siégeant dans les autorités d'avoir eu une attitude souvent contraire aux principes et aux nécessités de la lutte des classes. Il s'en prit surtout aux conseillers municipaux socialistes, qui pendant la dernière grève générale avaient appuyé la demande de lever les troupes. Le débat se poursuivit pendant 4 assemblées consécutives des délégués de l'Union ouvrière. Finalement, l'assemblée condamna à l'unanimité, la propagande anarchiste de Brubacher et réprouva à une grande majorité l'attitude des représentants du parti dans les autorités. Plus de 40 orateurs ayant été entendus, on vota une résolution disant que la propagande syndicaliste et antiparlementaire était contraire aux principes et à la tactique du parti, mais qu'elle était une conséquence de la politique d'opportunité des députés socialistes et des organes du parti. Les délégués de l'Union ouvrière ont décidé de combattre la propagation des idées anarchistes en s'employant plus activement à répandre les principes socialistes parmi la jeunesse. Ces discussions ont permis de constater le profond désaccord qui règne entre les mandataires et les électeurs. La Tagwart, qui rend compte de ces débats, dit que la politique du parti doit être profondément modifiée pour redevenir conforme aux aspirations des masses ouvrières. Une deuxième réunion aura lieu cette semaine pour discuter spécialement l'attitude des députés socialistes pendant la grève générale. La résolution condamnant la propagande anarchiste et réprouvant l'attitude des représentants du parti dans les autorités a été proposée par une association ouvrière qui porte le nom d'Eintracht, Harmonie, et qui est composée des syndicalistes les plus extrêmes. La décision d'activer la propagande parmi la jeunesse a été proposée par M. le conseiller national Sieg. Ainsi, écrit à ce propos la démocrate Zürcher Post, on établit que les idées anarchistes de M. Brückbacher sont inconciliables avec les tendances du parti, mais, pour rendre plus acceptable cette décision, arrachée aux amis du propagateur de l'anarchisme, les milieux syndicalistes condamnent la politique opportuniste des députés et des journaux socialistes. On réprimande M. Brückbacher avec une douceur maternelle et on rejette sur les élus du parti toute la responsabilité des dissensions intestines. Cette tactique n'a rien de particulièrement viril. Elle prouve une fois de plus à quel point l'Union ouvrière est incapable de résister à la propagande syndicaliste et anarchiste. Il n'y a rien de surprenant à ce que la résolution votée ait été proposée par l'association Eintracht, laquelle, toute imprégnée d'idées syndicalistes et anarchistes, a donné à réitérées reprises des preuves frappantes de son incompréhension totale des affaires suisses. Il est très compréhensible aussi que M. Sieg ait éprouvé le besoin de chercher des moyens nouveaux pour amener la jeunesse sous les bannières socialistes. Les insuccès récoltés jusqu'ici par le parti à Zurich et les errements des jeunes gens imprégnés des idées dangereuses de M. Brückbacher expliquent le point de vue qu'il a soutenu. M. Sieg nous permettra cependant de douter si les voies nouvelles qu'il propose sont aussi des voies
meilleures.
Chers
amis, chers camarades, le comité central du parti et le comité de l'Eintracht me reprochent d'avoir adressé au parti des critiques amères et injustes. J'ai fait voir que j'envisage la conquête des pouvoirs publics comme une nécessité historique. La conscience, toujours grandissante, que la classe ouvrière prend d'elle-même comme classe, se heurte à l'état de classe. Les travailleurs cherchent donc à s'emparer de cet état qui se trouve entre les mains de la classe possédante. Dans une démocratie, cette lutte a pour résultat que le prolétariat fait entrer par l'élection ses représentants non pas seulement dans le Parlement, mais aussi dans le pouvoir exécutif. Ces représentants doivent, par leurs actes, exprimer la volonté de leurs électeurs ouvriers. Mais l'expérience a montré que les représentants des ouvriers dans les pouvoirs exécutifs, tout particulièrement, n'ont pas été les organes de cette volonté. Que bien qu'élus par des ouvriers social-démocrates, ils ont accompli des actes destinés à protéger la classe capitaliste. Je veux énumérer ici les plus importants. Ceux dont le caractère anti-prolétarien est le plus criant de ces actes dus à des représentants du prolétariat suisse élus par la social-démocratie. En 1898, à Genève, le conseiller d'État socialiste Thiébault se prononça pour la levée de troupes dirigées contre la classe ouvrière qui avait proclamé la grève générale. En 1902, lorsqu'eut lieu à Genève une seconde grève générale, on put lire sur les murs de cette ville une affiche mettant de piquet un bataillon de fusillés à l'occasion de la grève. Le décret était signé du même Fritz Thiébault. Deux jours plus tard, ce n'était plus un seul bataillon, c'était toutes les troupes du canton qui étaient mises sur pied. En 1904, à Bâle, le conseiller d'État social-démocrate Wülschläger vota pour la levée de troupes dirigées contre la grève des ouvriers du bâtiment. La même année, 1904, dans le canton de Saint-Gall, un autre conseiller d'État social-démocrate, Scherer, trouva bon qu'on fît marcher la troupe contre les terrassiers occupés au tunnel du Riken. En 1907, à Zurich, le social-démocrate Vogelsanger, directeur de la police municipale, proposa à la municipalité d'interdire les postes de grève. Il fit protéger les briseurs de grève de l'agence Hintze par les policiers placés sous ses ordres et lâcha sur les ouvriers zurichois 200 policiers qui, le sabre nu, chargèrent les grévistes et la foule qui leur était sympathique. Pendant cette même grève, parut l'oukase suivant, signé par le président du gouvernement cantonal zurichois, le social-démocrate Ernst. Le gouvernement, disait-il, dans sa séance du 23 mars, après avoir entendu le rapport de la direction de justice et police sur les faits relatifs à la grève de la fabrique Aschbacher à Zurich, arrête, premièrement, tout piquet de grève en rapport avec la grève de la fabrique Aschbacher est interdit jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, tous les contrevenants à cet arrêté seront, à moins d'être coupables d'actes plus graves, déférés au tribunal correctionnel pour désobéissance à un arrêté de l'autorité publique. Troisièmement, l'organisation de cortèges de démonstration en rapport avec la grève et la participation à un semblable cortège sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Donc, un conseiller d'État social-démocrate, chers amis, chers camarades, non seulement n'a pas élevé de protestation contre l'interdiction des postes de grève et des démonstrations dans la rue, mais s'est personnellement associé à cette interdiction. En 1912, l'an dernier, à Zurich, le 12 juillet, a eu lieu, vous le savez, chers amis, chers camarades, une grève générale. La cause de cette grève générale a été une interdiction partielle des piquets de grève. Interdiction qu'avaient approuvée par leur vote les quatre membres socialistes de la municipalité, Erismann, Clotti, Pfluger et Vogelsanger. Ces mêmes quatre membres ont voté pour la mise sur pied des troupes, réclamées par la classe possédante contre la classe ouvrière. Ces mêmes quatre membres ont voté pour la punition disciplinaire de nombreux ouvriers municipaux, pour le fait d'avoir pris part à la grève générale. En 1912, l'an dernier toujours, à Bâle, un membre du gouvernement bâlois, le social-démocrate Blocher, prononce dans la cathédrale le discours d'ouverture à l'occasion du congrès socialiste contre la guerre et le militarisme. En 1913, le 13 juin, le même social-démocrate Blocher, membre du gouvernement bâlois, fait charger la population ouvrière de Bâle, sympathique à la grève des teinturiers par les policiers placés sous ses ordres. Je suis d'opinion, et je regarde cette opinion comme devant être celle de tout socialiste, qu'un prolétariat conscient ne peut reconnaître pour sien des hommes qui commettent de pareils actes. Je suis d'opinion qu'une presse socialiste consciente doit déclarer de pareils actes incompatibles avec la qualité de membre du Parti Socialiste et que les hommes qui les ont commis ne peuvent plus être présentés comme candidats du parti aux élections ultérieures. Voilà ce que commande le principe socialiste. Mais nous voyons, au contraire, qu'à l'exception du conseiller d'État genevois Thiébault, toute la séquelle de ses membres de municipalités et de gouvernements, infidèles au parti, se trouve encore en fonction. Ces messieurs ont été présentés de nouveau comme candidats par le Parti Socialiste de leur canton respectif et ont été réélus par les électeurs ouvriers social-démocrates. On a même permis que le membre du gouvernement bâlois, Wulfschläger, qui en 1904 avait voté pour la levée des troupes contre les ouvriers du bâtiment en grève, prononça le discours de bienvenue lors de la grande démonstration internationale socialiste contre la guerre et le militarisme en 1912. Dans ma critique, je n'ai cessé de rappeler ces méfaits et j'ai déclaré que la majorité du Parti Socialiste en a accepté la complicité puisqu'elle a continué à présenter comme ses candidats et à réélire des hommes qui s'en sont rendus coupables. Et je maintiens ma critique. Si on devait avoir le droit de s'appeler social-démocrate tout en faisant marcher la police et l'armée contre les ouvriers, tout en interdisant les piquets de grève et les démonstrations et en frappant les ouvriers municipaux de peines disciplinaires, alors, je tiendrai à honneur de n'être plus un social-démocrate.
Alors le labyrinthe, allégé du Minotaure, prit cette forme achevée du silence désigné par l'oubli. Non moins perdus donc étaient ceux que les songes de Minos, concurremment allégés, dirigeaient vers la fatale porte, tant qu'à la fin, le peuple entier disparut. Mais le peuple entier se trouvant dans le labyrinthe, le silence redoubla le silence, l'oubli redoubla l'oubli, et nature fut donnée à l'inextricable. On demandera comment Craton, qui était crétois, put signifier ce qu'il avait oublié lui-même. Et ce seul fait de parler le silence expliquerait qu'on ne l'ait pas entendu. Mais outre cela, il était machiné par le lieu d'où il parlait. En d'autres termes, sa propre parole était inextricable.
La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet,